Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Victor Hull,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est le rôle de Carmen dans l'opéra de Bizet qui l'a rendu célèbre sur les scènes d'opéra du monde entier. Un personnage sur mesure pour cette fille de peintre espagnole qui a choisi le chant plutôt que le pinceau pour imprimer des émotions dans le cœur du public. Elle a aussi interprété la Béatrice et la Didon de Berlioz, la Charlotte et la Chimène de Massenet, l'Eboli du Don Carlos de Verdi. Elle sort aujourd'hui un disque de récital qui marque aussi un tournant vocal puisqu'elle a changé de tessiture de mezzo-soprano à soprano, élargissant ainsi l'échelle de ses notes en même temps que les possibilités de rôle. La voici donc interprétant Tosca, Lady Macbeth, la Gioconda ou Norma. Assoluta, le premier disque solo de Beatrice Uria Monzón, est disponible chez Aparté et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour
Beatrice Uria Monzón.
Bonjour.
C'est pas cette air d'Adriana Le Couvreur, l'opéra de Francesco Chilea, que l'on entre dans cet album, qui est donc votre premier enregistrement solo et votre premier enregistrement en récital. Il y a quand même de quoi s'étonner. Pourquoi est-ce que vous avez attendu aussi longtemps ?
On me pose souvent la question, bien sûr, vous n'êtes pas le premier. D'ailleurs, même avant de faire ce disque, on me disait, pourquoi tu fais pas de disque? Pourquoi? Parce que tout simplement, les maisons de disques ne me le proposaient pas. Et c'est vrai que je n'ai pas une nature à aller vers les gens et dire, ben voilà, il faut à tout prix que je fasse un disque. Donc, j'ai un peu laissé faire les choses. Mais là, il y a eu une situation un peu particulière qui m'a permis de rencontrer Nicolas Bartholomé lors d'un enregistrement d'un disque d'Ophélie Gaillard, magnifique violoncelliste.
Oui. On a reçu dans cette émission.
Voilà, d'ailleurs. Et elle faisait un disque sur Strauss. Elle m'avait demandé d'enregistrer Morgan à la fin de son disque. Et donc, suite à cette rencontre, j'ai osé dire, bah voilà, j'aimerais bien faire un disque.
Et donc, vous vous êtes lancé dans cette nouvelle aventure. Ouais. Alors justement, enregistrer un disque et chanter sur scène, ce sont deux exercices complètement différents.
C'est très très différent. Le disque ne laisse rien passer et en même temps, ce qui est compliqué, c'est que bien sûr, on peut revenir pour essayer. Bon, notre but toujours, que ce soit sur scène ou au disque, c'est on cherche à tendre vers la perfection. En tout cas, on donne le meilleur de soi, espère-t-on en tout cas. Et donc là, le disque, on peut reprendre certaines choses qui n'ont pas été bien, etc. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est de trouver la justesse émotionnelle, la dramaturgie, trouver les nuances, les couleurs. Alors des fois, c'est vrai qu'aussi dans cet enregistrement, on a préféré parfois privilégier peut-être l'émotion, l'investissement et laisser passer certaines choses qui étaient peut-être pas complètement parfaites. Mais tant pis, je pense que c'est là aussi le rôle de la musique. Je pense que si ça doit être parfait, ça peut être aussi très ennuyeux. J'ai pas de réponse à tout ça, mais nous, on l'a fait comme ça, en tout cas.
Mais sur scène, on a du temps pour entrer dans un personnage. Bon, il y a énormément de répétitions, il y a le maquillage, il y a les costumes, il y a les décors, on s'inscrit dans une histoire, on s'inscrit aussi dans le jeu et dans le champ des partenaires. Quand on est toute seule face à un micro, comment on se met justement en condition pour donner de l'émotion?
Je crois que, je sais pas, c'est des choses, enfin, alors je vais ne parler que pour moi, mais c'est des choses que j'ai en moi, ces femmes, je les ai, je vais pas dire étudiées, c'est horrible, mais...
Elles vous ont accompagnées depuis des années.
Alors pas toutes, hein, mais j'ai écouté les œuvres et on rentre dedans. Alors là, effectivement, dans le contexte du disque, c'est très court puisqu'on passe non seulement d'un univers à un autre, mais d'une vocalité à une autre, ça qui est aussi extrêmement compliqué à gérer. Et donc,
vous êtes devant un micro, ouais. Béatrice Soria Monzon, est-ce que l'émotion, elle passe autant par le corps que lorsque vous êtes sur scène, ou elle passe uniquement par la voix et la bouche?
Mais de toute façon, c'est jamais dissocié. Le corps,
que vous jouez devant le micro?
Je sais pas ce que vous entendez par jouer, mais je suis en tout cas tout investi autant que quand je suis sur scène. Ça c'est sûr, mon corps entier. On peut pas chanter avec la moitié de son corps. On chante pleinement. Alors certes, on n'a pas la perruque, les vêtements, mais finalement, moi c'est aussi des choses que j'oublie quand je suis sur scène, que je suis déguisée parce que je crois qu'on est connecté essentiellement avec l'œuvre, avec la musique, avec le public et tout ça, ça ne fait qu'un. Pas complètement me dissocier de ces femmes.
Mais alors, sur scène, il y a 3 ou 4 grands airs dans un opéra traditionnel. Là, il y a 11 titres qu'il faut enregistrer, j'imagine, quand même dans un temps relativement limité. Ça veut dire qu'il faut économiser sa voix? Ça veut dire qu'il faut se ménager?
Oui, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Moi, j'étais très inquiète parce que ce sont tous des airs extrêmement difficiles, qu'on a fait plusieurs prises à chaque fois. Donc, du coup, des fois, on préférait faire une phrase et là où il n'y avait pas, parce que après, on reprenait pour moi parce que il y avait des choses qui n'étaient pas très parfaites ou pour un instrumentiste ou pour le fait qu'on n'était pas ensemble. Donc, l'idée, c'était évidemment de ne pas arriver morte pour les derniers airs enregistrés.
Oui, bon, cela dit, vous aviez quand même déjà une expérience de ces changements de rôle et de style très rapides, puisqu'il y a eu ce fameux spectacle Calas, c'était il y a 4 ans, avec Alain Duhaut au piano, je crois que c'était une...
Alors pas au piano,
mais c'est lui qui présentait la soirée.
Il racontait la vie de Maria Callas, oui. Voilà. Enfin, et d'ailleurs, je peux dire, il raconte, parce qu'on va le faire prochainement près d'Aix-en-Provence, à Rognes, au château Bonisson.
D'accord, et c'est une expérience qui vous a servi justement pour enregistrer ce
disque. Oui, c'est vrai, parce que la plupart des airs de ce disque Assoluta, il vient de... presque l'essentiel du programme était dans ce récital avec Alain Duhaut autour de Maria Callas.
Oui. Et c'est lui d'ailleurs qui signe le texte du livret, Alain Duhaut, donc écrivain, poète, homme de radio et de télévision. Et d'une certaine façon, c'est lui qui est un petit peu à l'origine du disque, puisque j'ai cru comprendre que c'était l'une de ses interviews qui vous avait conduit à changer de tessiture. Alors racontez-nous, ça se passe en 2009, juste après les Corrigés d'Orange.
Oui, alors Alain Duhaut, il faut dire que je le connais depuis très très longtemps, parce qu'il m'a fait faire ma première télévision, j'avais pas 25 ans, donc vous voyez, ça fait quelques temps déjà, il a toujours été très fidèle et très proche, et donc chaque fois que je chantais des rôles, des nouveaux rôles, etc., il me disait toujours ce qu'il pensait, et toujours aujourd'hui encore, et il arrêtait pas de me dire, mais écoute, il faut à tout prix que tu chantes les sopranos, tu devrais chanter Tosca. Et un peu peureuse, je me retranchais vers le fait que, mais non, je sais pas, on verra. En fait, j'avais très peur, tout simplement. Et un jour, en direct à la télé, je vais pas dire qu'il me piège, mais il m'a obligée à répondre à cette question. Une fois de plus, je me suis un peu mise à l'écart en disant oui, peut-être. Et Raymond Dufaux, directeur des Corrigés d'Orange, à l'époque du Théâtre d'Avignon, entend cette interview et il court vers moi, il me dit « Je monte Tosca pour toi ».
Donc là, j'étais... Vous ne pouviez plus reculer.
Exactement, je ne pouvais plus reculer. Mais là aussi, comme c'est quelqu'un en qui j'ai une entière confiance et que je connais depuis très longtemps, je lui dis « Raymond, tu sais, on se connaît assez, je vais travailler le rôle. Quand je serai prête, je te le chante ». Et tu me diras, si c'est une catastrophe, écoute, on restera bon
amis. Et ça n'a pas été une catastrophe, ça a été un succès en 2012, hein, c'est bien ça?
Oui, je crois bien, oui.
Voilà, et Tosca, évidemment, elle est sur le disque. L'air de la prière de Tosca de Jacopo Puccini, un des airs les plus célèbres de l'opéra italien, Béatrice Soria Monzone. C'est un vrai tube, comme on peut dire familièrement.
Oui, oui, complètement. Oui.
Floria Tosca, un personnage de cantatrice, un personnage jaloux à l'extrême. Elles sont toutes comme ça, les cantatrices ?
Alors, moi, ce qui me dérange quand j'entends qu'elle est jalouse à l'extrême, je sais bien que la première scène, lorsqu'elle rentre, etc., elle a entendu du bruit, elle va rejoindre son amoureux qui est dans l'église, etc. Mais c'est pas une scène de jalousie, c'est juste une femme inquiète, qui ne le serait pas.
Quand, une femme qui aime, tout simplement.
C'est une femme qui aime et qui est inquiète parce qu'elle a entendu du bruit, parce qu'elle rentre et qu'elle voit la taverne qui est peinte par l'homme qu'elle aime. Et d'ailleurs, si c'était une scène hystérique de jalousie, ça ne se terminerait pas par un duo d'amour.
Certes.
Or, c'est un duo d'amour qui suit cette scène. Donc pour moi, elle n'est pas éperdue de jalousie. Elle fait tout pour sauver l'homme qu'elle aime. Elle va jusqu'à, d'ailleurs, mourir. Et non, c'est une... Moi, j'aime toutes les femmes que je chante.
Oui, c'est une femme intense, en tout cas. Hein.
Voilà, mais
ardente,
bien sûr.
Toute... Avec des sentiments extrêmement forts.
Exactement.
C'est le cas de toutes ces femmes, ouais. Tous ces rôles que vous avez choisis pour ce disque.
Oui.
Comment est-ce que vous les avez choisis, justement, Béatrice Soria Monzone?
Beaucoup, donc, suite à ce récital qu'on a fait autour de Maria Callas. Et puis, c'est vrai que dans ce récital, il y a que 9 airs, donc on en cherchait 2 autres, 3 autres. Et puis, il y en a certains que j'ai chantés effectivement en scène. Adrienne Lecouvreur, qu'on a écouté tout à l'heure, ne faisait pas partie du récital Callas. Mais c'est un rôle que j'ai chanté à Saint-Étienne. Et voilà, Castadiva, c'est... Parce que c'est vraiment effectivement un tube, que c'est un air absolument sublime, mais je ne chanterai jamais le rôle en entier sur scène, par exemple.
Ouais, Castadiva de la Norma de Bellini, on va l'écouter dans un instant, mais on va tout de suite laisser place à Lady Macbeth. Alors ça, c'est un rôle que vous avez, pour le coup, interprété sur scène hein, au Capitole à Toulouse.
Et la première fois à Bruxelles.
Ouais, oui. On écoute, on en parle juste après.
Thank you.
Lady Macbeth dans l'opéra de Verdi que vous avez donc interprété, Béatrice Soria-Manzone à Bruxelles et ensuite à Toulouse. Alors, Toulouse triomphe incroyable, hein, mise en scène de Jean-Louis Martinotti et Michele Gamba à la direction musicale. Alors, j'ose pas trop présenter l'héroïne parce que bon, vous allez me dire, elle est pas intrigante, elle est pas ambitieuse. Lady Macbeth, si, quand même.
Si, si, c'est
vous
vrai.
Vous avez
que...
du mal à utiliser un mot négatif pour définir ces héroïnes finalement.
Oui, c'est vrai, parce que je crois que finalement, même dans cette femme-là, il y a une faille immense pour qu'on soit d'ailleurs avide de pouvoir, pour qu'on puisse à ce point-là pousser son mari à tuer le roi pour prendre sa place, etc. Il faut avoir un vide absolu en elle pour avoir besoin de combler de cette manière-là.
Oui, le trône d'Écosse ne suffit pas. C'est pas un objectif suffisant pour arriver à ces extrémités-là.
Je pense que voilà, donc je l'aime peut-être pour ça. Et puis elle devient complètement folle. Oui. Et donc elle est attachante pour ça. Enfin bon, après.
C'est par les faiblesses du personnage que vous entrez dans un rôle, Béatrice Soria-Manzone.
Moi, je pense, je crois que dans la vie aussi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Les gens, derrière leur façade, derrière, je crois qu'on cache tout ce qu'elle, enfin, pas forcément, je veux pas généraliser, mais l'apparence, c'est une chose. Mais ce qu'il y a derrière, c'est tellement... Et nous, dans notre métier, on triche pas tant que ça, parce que déjà, la voix est tellement révélatrice de ce que l'on est. Et puis, sur scène, on se met à nu nos émotions. En tout cas, moi, j'y vais. Ça,
oui.
Autant dans la vie, je peux être extrêmement pudique et je peux avoir du mal. D'ailleurs, ce qui me vaut de m'entendre dire que je suis froide, distante, etc. Mais ce que je comprends, hein. Mais je crois que oui, moi, mon révélateur personnel, c'est la scène. Ce sont ces femmes. Je me cache peut-être derrière ces femmes pour dire.
Vos propres fragilités, vos propres questionnements.
Oui, certainement, bien sûr. Oui.
Voilà. Est-ce à dire, Béatrice Soria-Manzone, que suivant les représentations, suivant les moments où vous incarnez tel ou tel personnage, vous les chantez différemment en fonction de votre état d'esprit?
Ah
de
oui,
l'instant.
Ça c'est sûr. Oui, oui, bien sûr.
Donc la voix trahit aussi d'une certaine façon votre personnalité,
oui,
votre vie personnelle, vos interrogations.
En même temps, il faut avoir du recul parce qu'évidemment, si on prend pas une certaine distance, on se fait bouffer par nos personnages. On pleure avec eux et donc si on pleure avec eux, on n'arrive plus à chanter. Tout simplement, moi ça m'est arrivé d'être au bord de dans les Troyens en 2006, ou alors quand je venais de perdre ma mère et que je chantais Werther à Lyon et qu'elle est assez cette scène incroyable où elle parle tout le temps de sa mère. C'était à ce moment-là, il faut prendre une distance considérable avec sa propre émotion parce que sinon on n'arrive pas au bout de l'œuvre.
Mais chanter les drames, les passions, les, les âmes torturées. C'est ça, finalement, que vous avez toujours voulu faire.
Oui, mais me demandez pas pourquoi.
Il faut souffrir, il faut aimer, il faut pleurer, il faut se torturer pour être heureuse sur une scène d'opéra.
Mais non, mais c'est comme une forme de catharsis, finalement. Hein. On expulse sur scène ça. Et puis bon, il y a un certain atavisme. Mon père, il était peintre, il a vécu la guerre d'Espagne. Et il y avait des choses très sombres dans sa peinture. Il y avait des choses très colorées, très joyeuses. Mais il y avait aussi des choses très lourdes. Et je pense que, ouais, génétiquement, il doit y avoir quelque chose de l'Espagne, cette Espagne sombre, noire, douloureuse, tragique.
Et c'est pour cette raison-là que vous avez, comme ça, souhaité passer du registre de mezzo au registre de soprano.
Vous savez, je l'ai pas décidé consciemment.
Du jour au lendemain, oui, évidemment.
Ouais, non, ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement. J'ai confiance en la vie et toutes les choses qui se sont présentées. J'allais presque dire, je ne les ai pas vraiment souhaitées, mais il y a eu des opportunités, je les ai saisies, je suis allée à fond. Mais je me suis pas dit, tiens, allez hop, je vais chanter les sopranos.
Oui, mais ça veut dire que vous vous êtes sentie de plus en plus à l'aise dans ces aigus-là que l'on peut atteindre.
Oui, mais déjà, lorsque j'étais jeune chanteuse, je le racontais souvent, mais j'avais des facilités dans l'aigu, mais je trouvais qu'à l'époque, lorsque j'essayais de chanter ces rôles-là un peu plus aigus, je perdais la couleur de ma voix, ma couleur de mezzo, ma couleur un peu grave. Et donc, je me sentais pas prête. Donc, puis bon, voilà, il y avait certainement des événements dans ma vie aussi qui ont fait que j'ai pas pu me consacrer entièrement à ça. Et puis, au fil des années, j'ai chanté, Saint-Oud, ça, Chimène, Didon. C'était des rôles qui sont un peu entre les deux, hein, comme Soprano Falcon, finalement. Et donc, ça s'est fait petit à petit.
Alors, on aime souvent les étiquettes en France. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Ça a été perçu comment, justement, ce changement de tessiture dans le monde lyrique?
Mais j'ai eu des échos suite à la sortie de ce disque à Soluta, où des gens disaient « Ah bon, mais c'est vrai, alors elle chante, c'est vrai. » Ça fait quand même à peu près 10 ans. Hein,
voilà, donc c'est pas une nouveauté. Oui.
Pour moi, c'est pas une nouveauté, mais oui, je pense que dans le métier, certains étaient très dubitatifs, très très dubitatifs. Mais c'est pas grave. Oh!
Béatrice Auria-Monson, notre invitée dans VMDN sur RFI, ici dans un extrait de La Force du Destin de Giuseppe Verdi, et c'est un orchestre verdien qui vous accompagne sur ce disque Assoluta, qui sort donc chez Aparté, l'orchestre de la Fondation du Théâtre Lyrique Giuseppe Verdi de Trieste, en Italie, sous la direction de Fabrizio Maria Carminati. Pourquoi lui ?
Parce que j'ai chanté plusieurs choses avec lui. Alors là, j'ai chanté la Gioconda, mais à l'époque où j'étais mezzo et où je chantais le rôle de Laura. J'ai fait aussi Adrienne le Couvreur avec lui, et c'est quelqu'un qui connaît bien les voix, qui évidemment connaît parfaitement le répertoire italien, et avec qui je m'entendais très bien, et je pense que c'est primordial aussi pour se sentir en confiance et en adéquation musicalement.
Alors vous avez chanté sous la direction de Plasson, Prêt, Nagano, Krivine, Myung-Chung, Kazatsu, Konnon et quelques autres. Qu'est-ce qu'une chanteuse lyrique soliste comme vous attend d'un chef d'orchestre ?
C'est compliqué. Un chef d'orchestre en parlerait mieux que moi, mais nous, moi, ce que j'attends, c'est qu'il nous insuffle une ligne qu'il sache respirer. C'est compliqué, qu'il prenne le juste tempo, parce que s'il va trop vite, on peut se casser la figure, ne pas avoir le temps de respirer. S'il va trop lentement, et si les phrases sont trop larges, trop longues, on peut s'étouffer et mourir, ne pas y arriver, prendre le risque de ne pas arriver au bout de l'air ou de l'œuvre. C'est assez complexe.
Et donc un travail de répétition, c'est toujours un échange permanent ?
Complètement. Donc qui est primordial, bien sûr, bien sûr.
Alors Assoluta, le titre de cet album fait référence aux voix de soprano qui ont incarné ces grandes héroïnes tragiques du 19e siècle. On pense à Montserrat Caballé, à La Callas, à René Fleming. Ce sont des voix comme ça qui vous ont beaucoup accompagné.
Oui, il y en a beaucoup, même des Anna Netrebko d'aujourd'hui, Angela Gheorghiu. Ce sont des artistes que j'admire beaucoup. Et oui, c'est des femmes qui allaient au bout d'elles, que ce soit ces chanteuses ou les femmes, c'est les rôles. Donc après, c'est vrai que c'était des... Moi, je veux pas qu'on pense que je me prenne pour une diva, parce que je crois que ça a parfois été mal interprété, ce titre. Pourtant, j'ai enlevé le mot diva.
Oui, non, mais...
Mais voilà, c'est aller au bout de soi, être dans l'absolu, assumer ce que l'on est. Et voilà, aujourd'hui, je l'assume.
Voilà, Maria Callas, hein, qu'on a cité, que vous avez interprété à de multiples reprises, notamment avec Alain Duhaut, hein, on évoquait tout à l'heure ce spectacle autour de Maria Callas, en tout cas. Maria Callas qui a redonné ses lettres de noblesse au bel canto, et parmi les grands rôles du bel canto, il y a, on en parlait tout à l'heure, Norma.
Ooh.
Casta Diva, extrait de Norma, l'opéra de Bellini, avec la voix de Béatrice Auriemmanson, notre invitée aujourd'hui sur RFI. Alors Norma, c'est un peu l'Everest du bel canto italien. Allier la justesse des aigus, la performance vocale et l'émotion, la sensualité de l'interprétation, c'est le principal défi dans un air de ce genre.
Et le calme.
Et le calme.
Et le calme, sachant qu'il y a tout ce que vous venez d'évoquer. Ça, c'est le plus compliqué. C'est avoir la ligne, la longueur de souffle, la stabilité. Oui, ça, c'était pas le plus simple.
Vous êtes issu, vous le disiez, d'un milieu artistique avec un père peintre, Antonio Auriemmanson. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'opéra?
Alors, écoutez, je vais raconter ma petite histoire de moi passant le baccalauréat en 10 ans, arrivant à 18 ans et ne sachant pas quoi faire, étant inscrite nulle part. J'avais déjà annoncé à mes parents que je repiquerais pour de façon à avoir une année sabbatique, en quelque sorte. Bon, ils étaient moyennement contents. Ils m'avaient dit, puisque c'est ça, tu vas aller en pension, boîte à bac, etc. Ok, donc on m'inscrit en juin ou en mai. Et puis je rencontre le directeur Pierre Gardeil qui me dit ok, ben je t'inscris, tu viens l'an prochain. Il me dit passe ton bac quand même, on sait jamais.
Oui, on sait jamais. Bon.
Et je le passe et je l'ai. Alors c'était presque une déception finalement, et c'était terrible parce que j'étais inscrite nulle part. Donc on fait quoi? Donc je rappelle Monsieur Gardeil qui me dit écoute, tu vois avec tes parents, moi t'es inscrite, donc la place est là. Et donc j'y vais. Mes parents me disent écoute, t'as qu'à y aller. Et j'y vais et je repasse une terminale. Et ce monsieur, Gardeil, était passionné d'opéra. Il avait monté une chorale avec les profs, les élèves, tout ça. Et j'ai découvert la musique. Et là, j'ai pris des cours de chant avec monsieur Fornereau, qui a été mon tout premier professeur. Et ça a été une découverte incroyable. Incroyable. Oui. Mais de la musique, de la vibration, de cette connexion au monde, et avec moi-même, surtout moi qui étais un peu paumée à cet âge-là, on va dire.
Et à quel moment vous avez compris que vous alliez en faire votre métier?
Mais pas tout de suite, parce que par chance, monsieur Fornereau était très prudent et il disait à mes parents, vous savez, si peut-être elle fait carrière, peut-être que dans 10 ans elle aura un rôle. Donc je n'avais pas ni la grosse tête ni rien du tout, et puis surtout j'y connaissais rien, je connaissais pas. J'avais joué de la guitare classique pendant quelques années. Donc là-dessus, c'était un peu... Évidemment, l'étape suivante, c'était de rentrer au conservatoire. Au conservatoire, faire de la musique, écoute, il faut que tu te mettes en fac pour assurer quelque chose derrière. Donc je me suis inscrite en histoire de l'art. Je ne sais pas si ça aurait assuré ma vie, mais bon, j'ai fait ça à Bordeaux, il y a donc quelques années. Puis après, il y a le CNIPAL qui s'est créé à Marseille, et j'y suis rentrée. Mais le département soliste n'existait pas à l'époque. Moi, je voulais juste faire de la musique. J'avais enfin trouvé ma voix VOIE aussi. Et donc, j'étais déjà heureuse de ça.
Voilà, et vous avez depuis apporté votre voix et les émotions qui vont avec sur les scènes d'opéra du monde entier. Longtemps, Béatrice Auriemmanson, on le disait tout à l'heure, vous étiez mezzo et notamment, vous avez incarné Carmen. Alors Carmen, le grand public vous a découvert dans ce rôle mythique à l'Opéra Bastille à Paris en 93. Ouais. Une Française dans le rôle de Carmen, c'était déjà en soi un événement. Vous l'avez incarné plusieurs centaines de fois depuis.
Oui, à peu près 400 fois.
Près 400 fois. Comment on fait pour se renouveler, pour surprendre le public et peut-être pour se surprendre soi-même?
Écoutez, on est une équipe, je ne suis pas toute seule, donc Dieu merci, il y a des artistes différents, j'ai des collègues différents qui ont eux aussi une idée différente, un vécu, une voix, une façon de marcher, etc. Il y a évidemment un metteur en scène, un chef d'orchestre, chacun fait ses propositions de la vision du rôle, donc c'est ça qui est intéressant. Moi, ça ne m'amuse pas de plaquer l'idée que j'en ai. Des fois, il a fallu, parce que malheureusement, je me suis retrouvée avec des metteurs en scène qui n'avaient pas grand-chose à dire, parce que on croit que c'est une œuvre facile, qu'il suffit de faire clap clap et de mettre des chevaux et des castagnettes, mais c'est pas ça. Donc des fois c'était je faisais la Carmen que j'aimais, en qui je croyais, mais il faut que ça soit en adéquation avec les autres personnages. Donc on peut pas arriver et plaquer son idée, il faut qu'il y ait une cohésion.
Alors vous allez l'incarner à nouveau au Stade de France avec Roberto Alagna l'année prochaine, 18 juin 2022. Alors le concert a été repoussé en raison évidemment de la pandémie. C'est un adieu au rôle puisque vous n'êtes plus dans ce registre.
Oui, c'est vrai. Quand on m'a proposé ça m'a fait sourire. J'ai demandé qui chantait. J'ai dit si c'est Roberto alors.
Et Alex,
Sandra. Oui, et puis c'était amusant. Je l'ai commencé à Paris, à l'Opéra Bastille en 93, comme vous l'avez rappelé, et de le finir à Paris, je trouvais que c'était pas mal.
En attendant, c'est Marc-André Dalbavy qui dirigera encore dimanche Le Soulier de Satin à l'Opéra Garnier à Paris, dans une mise en scène de Stanislas Nordet, d'après l'œuvre de Paul Claudel, bien sûr. Vous pouvez nous en dire un petit mot?
Écoutez, moi qui suis pas familière avec le répertoire de musique contemporaine depuis un premier rôle de Trompe-la-Mort de Francesconi il y a quelques années, je dois dire que c'est une musique qui m'attire de plus en plus, que je trouve intéressant l'idée de la création. Que le compositeur entende ça. Voilà, que tout ce processus de création est intéressant. C'est un opéra qui est long,
Le Soulier de Satin. 6h05 avec deux entr'actes, quand même. Vous jouez trois rôles, en plus.
Oui, je joue trois rôles, mais ils sont très courts. Mais je suis au début, à la fin. Donc, j'attends très longtemps. Non, c'est une très belle œuvre. Il y a des Mario, Eve Mode Hubo, qui est absolument magnifique. Luca Pizarone. Il y a beaucoup de beaux artistes français également. Et puis surtout, on était tellement heureux de recommencer à chanter parce que on a été déconfinés en partie donc le 19 mai, la première était le 21, donc on s'est dit ouais, on y va, on va jouer.
Alors désormais, Béatrice Souria-Manzone, vous voulez abandonner totalement ce registre mezzo ou vous voulez plutôt jouer sur les deux registres? Est-ce que c'est possible?
Mais oui, je pense que c'est possible, d'autant qu'en vieillissant, c'est pas la logique d'aller vers l'aigu. Bon, moi, ça s'est fait déjà depuis 10 ans, donc je sais que je reviendrai au rôle de mezzo. J'y reviendrai peut-être pas tout de suite. Je vais encore profiter de ma jeunesse vocale ou de ma fraîcheur vocale pour continuer ce répertoire. Et puis après, je reviendrai à ces rôles-là de mezzo, certainement.
Merci beaucoup, Béatrice Souria-Manzone. On va se quitter avec la Gioconda. C'est le rôle que vous allez d'ailleurs prendre le 24 septembre et qui va ouvrir la saison du Capitole de Toulouse. Merci infiniment. Et je rappelle que l'album Assoluta est disponible chez Aparté. La Gioconda avec la voix de Béatrice Souria-Manzone à découvrir le 24 septembre au Capitole à Toulouse, bien sûr. Dans l'actualité culturelle de ce mois de juin, il y a aussi le Centre des Monuments Nationaux qui présente Enquête de Liberté dans le cadre de la saison Africa 2020. C'est la première carte blanche en France consacrée à l'artiste ghanéen El Anatsui. Il a créé son œuvre à la Conciergerie de Paris, au cœur de l'île de la Cité, sous les voûtes gothiques de cet ancien palais médiéval, devenu prison pendant la Révolution française. Marjorie Bertin a visité cette exposition en compagnie de Ngonéphale, la commissaire de cette exposition, qui est également commissaire générale de cette saison Africa 2020. Voici son reportage.
Une étonnante quiétude emplit la salle des gendarmes. Les voûtes séculaires de la conciergerie sont plongées dans une lumière tamisée. Elana Tsui y a convié 5 éléments de la nature pour son installation. Le vent, le bois, le métal, la pierre et l'eau. C'est elle qui attire en premier le regard du visiteur. Face à nous, des rails de chemin de fer sur lesquels Elana Tsui a imaginé deux rivières, lumineuses et paisibles. Pour l'artiste, elles font écho aux bras de la Seine qui entoure l'île de la Cité et au temps qui passe. Gonéphal.
On a la notion du temps qui passe sur 24 heures, puisqu'en fait, l'eau qui coule, c'est l'eau de la Seine qui a été filmée l'automne dernier pendant 24 heures. Et c'est ce qui est projeté au-dessus des rails de chemin de fer. Mais pour avoir cet effet de l'eau et de l'ondulement au-delà de la vidéo, on a ce tissu qui ondule, qui renforce la sensation de l'eau. Et en fait, c'est une fine toile de parachute. Et en dessous de chaque rivière, il y a 200 micro-ventilateurs silencieux qui soufflent pour faire justement bouger cette toile. Donc c'est assez impressionnant parce que vu d'ici, on a vraiment l'impression que c'est de l'eau. Mais non, c'est un film.
Le film est apaisant, car l'eau symbolise également la renaissance et la paix. Avant la pandémie, Elana Tsui est venue à deux reprises à Paris pour s'inspirer des 1000 mètres carrés de la conciergerie.
Il a passé beaucoup de temps ici, tout seul, en silence, à s'intéresser à l'histoire de ce bâtiment qui a été ouverte aux quatre vents sur le peuple, qui s'est refermé quand c'était une prison. Donc ce sont ces couches successives et ce temps qui passe qui ont commencé à jalonner les premières pistes de qu'est-ce que je vais faire en tant qu'artiste. Et il avait deux mots-clés qui revenaient tout le temps, silence et solennité. Je veux que ce soit un lieu serein, qu'on soit dans une sorte de liberté de s'évader.
En prison, l'évasion est souvent intérieure. Une cinquantaine de rochers calcaires sont répartis comme une haie d'honneur de part et d'autre de la plus grande salle médiévale d'Europe. Dans une semi-pénombre, le spectateur est invité à s'y asseoir et à méditer. Une pause contemplative proposée par le doyen des artistes de la saison Africa 2020. Pour Gonéphal, il était indispensable qu'il y figure.
Parce qu'il a été enseignant de 1975 à 2000, qu'il a marqué des générations d'artistes au Nigeria et au Ghana, et que depuis des années, au-delà de ça, lui, en toute discrétion, il finance des projets d'artistes, des centres d'art, des collectifs d'artistes, et il finance aussi l'équipement d'écoles primaires au Nigeria et au Ghana. Ce côté mécène secret que peu de gens connaissent en fait en dehors du Nigeria, c'est ça aussi que je voulais révéler au monde de l'art qui quand même le découvre assez tard. Le monde de l'art, quand il découvre Elana Tsui, on est en 2007-2008 à la Biennale de Venise. Moi, ça fait, je le connaissais déjà depuis 1995.
Elana Tsui s'est surtout fait connaître en Europe par des tapisseries de métal souvent monumentales. Sur les murs et dans les cheminées de la conciergerie s'étendent 6 grandes tentures dans cet esprit. Elles sont constituées de capsules de bouteilles et de canettes aux couleurs chatoyantes, rouge, doré, rose tendre ou jaune argent. Hypnotique. Dans cette ancienne prison politique, en quête de liberté est une invitation au voyage.
Que signifie la liberté? Pas la liberté dans le genre « je vais faire une révolution », mais plutôt comment est-ce que mon esprit et mon corps s'évadent? Comment est-ce que je me mets dans une bulle de sérénité pour revisiter le passé, mais aussi surtout pour inventer d'autres futurs, une infinité de possibilités. Donc c'est une œuvre qui est très délicate, très subtile. Il n'y a pas de message politique, idéologique ou quoi que ce soit. C'est juste comme cette visiteuse, on s'assoit, on passe en revue ses emails, on écoute de la musique et on se laisse absorber, en fait, happer par ce que dégage cette œuvre dans laquelle on est. Donc on est des éléments vivants de cette installation.
L'installation d'Elana Tsui réussit un pari rare, donner envie aux spectateurs de s'y ressourcer le temps qu'il le désire. Une pause salvatrice dans le tumulte parisien.
Reportage de Marjorie Bertin pour VMDN, une œuvre donc d'Elana Tsui à découvrir à la conciergerie sur l'île de la Cité. On est vraiment au cœur même de la capitale française. Et puis bienvenue à la petite Céleste qui a pointé le bout de son petit nez ce matin à Paris. Céleste, c'est la fille de Baptiste Antoine qui a déjà tant donné pour cette émission et qui lui donne ainsi une toute nouvelle auditrice. Félicitations à Papa Baptiste, félicitations à Maman Marion de la part de toute l'équipe de VMDN. Et je suis sûr que vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.
RFI.